Bueno, primero preguntar la pregunta obvia, ¿por qué siendo él escritor ha querido contar una historia a través del cine en lugar de la literatura?
Pourquoi un écrivain, tu as compris?
Oui.
Et en fait, le cinéma fait partie de la vie depuis de nombreuses années.
Oui, on va recommencer comme ça. Le cinéma fait partie de ma vie depuis de nombreuses années. J'avais fait des études de cinéma en même temps que des études de littérature. Et depuis 10 ans à peu près, je travaille comme consultant auprès de producteurs ou comme scénariste avec des metteurs en scène. Et de plus en plus, j'ai eu le désir de maîtriser moi-même toute la création d'un film. Et il se trouve qu'avec cette histoire, quand j'ai imaginé cette histoire, je ne me voyais pas la donner à un autre réalisateur parce que c'était vraiment trop présent dans mon esprit. Et j'ai eu la chance au même moment de rencontrer des producteurs qui ont aimé l'histoire, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de la réaliser. Ce qui me permet de m'exprimer complètement différemment que par rapport à ce que je fais en littérature.
Bueno, nunca he estado alejado del medio cinematográfico, ¿no? Estudié cine al tiempo que estudié también literatura. Y desde hace 10 años he trabajado como asesor con productores, co-guionista, entonces tenía contacto con el cine, muy directo. Y cada vez tenía más ganas de, digamos, hacerme con todo lo que es el paquete, ¿no? la película entera. Y luego, esta película concretamente, después de escribir el guión, era algo demasiado, que me tocaba demasiado profundamente, estaba demasiado cercano a mí, como para entregarlo, ponerlo en manos de otro realizador. Y he tenido la enorme suerte de conocer, todo más o menos encajó, ¿no? A tiempo, a productores entusiasmados con el proyecto, muy decididos, que me apoyaron y me permitieron rodarlo a mí.
J'avais envie, si vous voulez, d'utiliser les moyens du cinéma pour raconter une histoire. Lorsque j'écris des livres, j'ai un seul outil qui est déjà merveilleux, mais qui est unique, c'est la langue. Alors qu'avec le cinéma, je pouvais travailler sur la lumière, je pouvais travailler sur le son, je pouvais travailler sur le silence, ce qui est très difficile de faire en littérature. Je pouvais évidemment travailler avec des comédiens, je pouvais travailler sur le rythme, la musique. Donc il y a toute une palette comme ça de possibilités offert par la création cinématographique que je n'ai pas lorsque je fais des romans.
Claro, en una novela, el instrumento que tenemos a nuestra disposición, los escritores, es la lengua, ¿no? Que es un instrumento maravilloso, una herramienta incomparable. Pero el cineasta dispone de muchas más herramientas. La paleta de pronto se vuelve mucho más amplia. Como cineasta se puede trabajar en la luz, ¿no? En los intérpretes, en los gestos y sobre todo en una cosa que en una novela no se puede trabajar, los silencios. Y eso, por eso también me atraía mucho hacer algo en cine. ¿Sí?
Sí, digo, si en algún momento pensó en este del cinematográfico, debería ser más fácil a lo mejor llevar al cine alguna de sus novelas, pues, más conocidas, no reconocidas, o desde el primer momento lo rechazó, tenía una historia, por ejemplo.
J'ai pensé, au fond des débuts cinématographiques, à prendre un de tes romans qui, malgré tout, sont très connus.
Oui, enfin, non, c'était, comment dire, par exemple, Les âmes grises, Almas Grises, a été porté au cinéma par Ivan Gelo, qui est un copain. Jamais je n'aurais eu l'idée, et encore moins le désir, de porter cette histoire au cinéma. Et par ailleurs, en ce moment, par exemple, mes producteurs aimeraient beaucoup que je filme la petite fille de Céline. J'ai fait le scénario il y a 2 ans, à leur demande, pour un autre metteur en scène. Et puis finalement, le metteur en scène pressenti avait des idées qui ne convenaient pas aux producteurs. Et là, ils aimeraient beaucoup que ce soit moi qui réalise cette adaptation. Mais ça fait 1 an, en fait, que j'hésite. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment une bonne idée d'adapter ça au cinéma. Donc en tout cas, pour répondre précisément à votre question, non, encore une fois, moi j'avais envie de pouvoir faire au cinéma ce que je ne peux pas faire en littérature. Et donc il n'était pas question d'adapter une histoire que j'avais faite, c'était vraiment faire quelque chose d'intégralement nouveau.
Non, par exemple, Las Almas Grises, qui aquí está traducida, está publicado aquí, la adaptó ya un amigo mío, Ivan Gelo,
¿no?
al cine. Obviamente, bueno, pues ya está adaptada, entonces no. Y luego, la nieta del señor Lin, que también está publicada en España, bueno, los productores tienen muchísimas ganas que yo la lleve al cine. De hecho, hice el guión hace 2 años, lo redacté, no iba a llevarlo yo a la pantalla, ni mucho menos, iba a llevarlo a otro realizador, pero el realizador no acabó de entenderse bien con los productores, no se llevó a cabo. Y desde hace 1 año, pues, me están presionando un poco, digamos, para que yo lo lleve a la gran pantalla. Pero no estoy seguro, ni mucho menos, o sea, dudo enormemente que sea lo que deba hacer. No sé si llevar esta novela a la pantalla yo sea una buena idea. De hecho, si he hecho una película es justamente para hacer algo totalmente diferente. Llevar a la pantalla una historia que no podía llevar a la página blanca, ¿no? O sea, a un libro. O sea, no seguir con lo mismo. ¿Sí? A ver. Sí.
Según lo que él ha dicho antes, saco la conclusión, creo que lo sabe. Si este cree que hacer cine es algo superior a hacer literatura, le da la impresión de que en la literatura se encuentra recortado de elementos que en el cine los tiene. Entonces, es superior a su modo de la literatura.
Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais je trouve que les possibilités du cinéma, oui, sont extraordinairement supérieures à la littérature, et je trouve que c'est un art beaucoup plus riche. Vous savez, en France, on dit que le cinéma, et dans d'autres pays aussi, c'est le 7e art, hein, parce qu'il est apparu après les 6 premiers. Mais l'autre jour, je disais à quelqu'un, pour moi, c'est le 7e art, parce qu'en fait, c'est l'addition de tous les autres avant. Quand on fait du cinéma, on fait quelque part de la littérature, on fait quelque part de la danse, on fait quelque part de l'architecture, on travaille quelque part sur la lumière, etc., etc. Donc on utilise des moyens artistiques qui donnent des merveilleuses choses isolées, mais là on essaye de les utiliser de façon synthétique. Et puis, il y a une chose qui me paraît, enfin qui me touche beaucoup moi dans le cinéma, c'est que la littérature que j'adore lire et que j'adore essayer de faire, mais c'est malheureusement quand même un art un peu élitiste. On s'adresse à un public qu'on sait assez réduit. Alors que le cinéma, c'est véritablement un art populaire. On sait qu'en faisant du cinéma, on a moyen de toucher un public très très large. Et donc on a moyen aussi de faire passer des idées, des émotions, des questionnements, peut-être à un public encore plus grand. Et j'aime aussi cette idée de l'art populaire qu'est le cinéma, qui s'adresse vraiment à tous.
Bueno, quizá parezca curioso decirlo, sobre todo de parte de un novelista, ¿no? Pero sí creo que el cine da más posibilidades que la literatura. Muchas más. Se dice siempre que el cine es el séptimo arte, y porque es el arte que surgió después de los otros 6. Yo creo que también es el séptimo arte porque es el cúmulo de los 6 primeros, ¿no? En cine, uno escribe, uno hace arquitectura, uno hace danza. Reúne los 6 primeros, realmente. Tengo un blanco, ¿atendés ya? Vale, sí, ahora ya. Y entonces también hay una cosa. Al escribir la literatura, queramos o no, se nos siente mal o no, es un arte un poco elitista. Nos dirigimos a un público más reducido que el cine. Y tenía ganas realmente de hacer algo, de producir, o sea, de hacer una obra que tocara a mucho más gente, o sea, realmente popular a un gran público, ¿no? Llegar, alcanzar a mucho más gente.
Je ne sais pas s'il y a un élément plus important. Je pense que c'est plus des... Moi, j'ai toujours essayé de faire des livres, en l'occurrence un film, où il y a différentes possibilités comment dirais-je, de rentrer dans l'histoire. Certains vont être plus intéressés par la relation entre les deux sœurs, d'autres vont peut-être être plus intéressés par l'univers de la prison et ses conséquences, par le thème du secret de famille, par le thème de la reconstruction. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre plusieurs morceaux de laine et puis de les tisser pour faire une sorte de petit napperon de couverture et chacun va suivre finalement le fil qui l'intéresse. Plus généralement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière humaine, en fait. Si j'écris des livres ou si je fais des films ou des scénarios, c'est pour essayer de comprendre les autres et de m'approcher des autres. À la limite, moi, je l'ai dit dans certaines interviews, le film, il aurait pu s'appeler The Others s'il n'y avait pas eu un excellent metteur en scène espagnol qui avait déjà piqué le titre avant. Les autres.
Les autres, ah oui.
Parce que c'est vraiment une histoire, c'est ça, c'est qui sommes-nous pour les autres? Que sont les autres pour nous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Comment ils peuvent nous accepter, nous rejeter, nous consolider? C'est cette idée-là, en fait, de lien, de solidarité, d'humanité qui m'intéresse et que je retiens en priorité.
Bueno, no hay ningún elemento realmente que me interese más que los demás, que los otros, ¿no? Justamente lo que intento hacer en una película es ofrecer muchos elementos. Habrá un público al que le interese más la relación entre las dos hermanas, habrá otra parte del público que igual se interese más por la parte, digamos, carcelaria, que hace la cárcel a un ser humano, habrá otro público que se interese más por la reconstrucción de este personaje destrozado al salir de la cárcel. Eso depende. Pero lo que sí intento hacer, tanto en un guión como en una novela, es justamente tejer, digamos, una pequeña manta. Entonces, cojo hilos sueltos, los uno, para tejer algo pequeño, más o menos, ¿no? Y ofrecerlo. O sea, lo que me interesa al hacer cine, al escribir, es saber cómo funciona el ser humano. ¿Qué le mueve? ¿Qué le hace reaccionar? Si esta película, si no hubiera un director español fantástico que ya había optado por el título y por lo tanto ya no lo podía yo utilizar, la hubiera llamado Los Otros. O sea, porque es exactamente eso. Es ver cómo reacciona una persona ante la otra, cómo la persona reacciona ante uno mismo, ¿no? Es este cruce de relaciones que es lo que me interesa y lo que quiero mostrar en cine y en las novelas.
Sí.
La película es un vehículo de crecimiento para Cristian Escortomas. Me gustaría saber cómo debo contar con él, que me dejáis en un cineasta debutante, ya es un poco como fue y si siempre pensé.
Mais c'était assez facile en fait. Pardon. Christine Scott Thomas, c'est assez un paradoxe en France. Parce que c'est une actrice qui est mondialement connue. Elle vit en France depuis 25 ans. Et le cinéma français ne lui a jamais offert un premier rôle. Elle fait beaucoup de films en France, mais c'est des petites participations ou des rôles très secondaires. Et là, c'était la première fois qu'en France, on lui proposait un rôle de premier plan. Et en plus, un rôle qui était très très différent de ce qu'elle avait déjà fait et qui jouait complètement à l'inverse de son image de star glamour et toujours très belle, etc. Donc, Christine est une très bonne actrice, c'est aussi une femme intelligente et elle a compris combien ce rôle pouvait lui offrir une autre possibilité dans sa carrière et elle a accepté que très facilement le rôle. Et la première chose que je lui ai demandé, moi, c'est, voilà, j'aimerais bien que ce soit vous, mais je vous préviens, il faudra être moins belle. Je vous filmerai de façon très dure. Votre visage au début sera vraiment gris, sera ridé, parce que je veux montrer comment la prison arrive à gommer
la beauté des êtres. Et
comment la prison fracasse les êtres humains. Donc là, il faudra y aller. Elle m'a dit oui, mais il n'y a pas de problème. Et ça, je pense que beaucoup d'actrices françaises n'auraient pas accepté. Beaucoup auraient dit oui dans l'entretien avec le metteur en scène, et après sur le tournage, auraient dit non, il faut que je sois belle, etc. Elle, c'était pas du tout le cas.
Bueno, no fue tan difícil, ¿eh? La verdad,
porque hay una cosa, Kristin Scott Thomas hace 25 años que vive en Francia, o sea, es su residencia. Sin embargo, nunca se le había ofrecido un papel protagonista. Trabaja en muchas películas francesas, pero tiene pequeños papeles secundarios, o sea, nada. Es el primer papel protagonista absoluto que se le ofrece. Entonces, ahí ya era una baza. En segundo lugar, eso sí, cuando hablé con ella, le dije, bien, me encantaría que fuera usted. Dice, yo quiero que sea usted, pero hay un problema, pero le voy a serle sincero. No va usted a salir al principio de la película, ni en toda la película, en realidad, con ese aspecto glamuroso habitual que tiene en todas las películas, ¿no? Al principio, al salir de la cárcel, la voy a rodar en tonalidades grises, va a estar arrugada, justamente porque quiero mostrar lo que hace la cárcel a una persona, es aplastarla, borrar sus facciones completamente, y quiero que se vea esto con usted. Y entonces Kristin es una persona inteligente, es una mujer muy inteligente, una gran actriz, y entendió perfectamente que esto le abría otras puertas. Era obviamente un papel totalmente contrario a lo que ella está habituada a hacer, pero le ofrecía muchas posibilidades y aceptó inmediatamente. Cosa que quizá no hubiera ocurrido con otras actrices francesas, que sí, teóricamente habrían aceptado hablando conmigo, con el realizador, pero el primer día del rodaje habrían montado un auténtico número diciendo no exijo maquillaje, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Sí, antes ha dicho que el guión le parecía demasiado cercano para dejarlo en manos de otra persona. Quería saber qué experiencia hay en el guión, si es algo personal o qué quería contar, si hubiera el guión tan personal.
¿Por qué te has dejado en el guión de una persona? ¿Qué es que hay en el cerebro que es muy proche a ti?
C'est assez difficile de répondre précisément à la question. C'est plus une question, comment dirais-je, de relation très personnelle à l'histoire. Et en tout cas, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'avec ce scénario, c'était un petit peu la synthèse de plusieurs années de création romanesque ou de scénario que j'avais fait qui n'avait pas pu être tourné. J'arrivais dans celui-ci à dire très bien ce que je voulais dire. Et surtout, je voyais vraiment quel type de décor j'allais utiliser, quel type de lumière, quel type de mouvement de caméra, quel jeu j'allais demander aux acteurs. Donc, il y avait un côté extrêmement construit déjà dans ma tête. Il n'y a quasiment pas eu de place laissée au hasard. Le film que vous voyez, c'est celui vraiment que j'avais dans la tête, et j'ai eu la possibilité de le faire du début à la fin comme je le pensais. Donc, ça aurait été quand même extrêmement frustrant de le donner à un autre metteur en scène et que ce metteur en scène-là apporte évidemment sa touche, sa patte et me dépossède de ça. Beaucoup plus que dans d'autres scénarios que j'ai fait où quand j'ai fait le scénario des âmes grises, c'était pour mon copain, comme je le disais, Evangelo, et c'était à lui de faire son film. Mais à aucun moment j'avais un sentiment de dépossession. C'était vraiment pour lui. Tandis que là, c'était... Il y avait déjà toute cette conception que j'avais en esprit, donc je ne voulais pas la laisser à quelqu'un d'autre.
C'est difficile de contestar la pregunta. No es que haya nada realmente personal, como se puede decir, mío, no dentro del guión. Pero desde el momento que empecé a escribir este guión, lo sentí realmente mío, ¿no? Y fui construyéndolo a medida que lo escribía. Es decir, que sabía perfectamente qué luces, qué tipo de luz, ¿no? Qué tipo de iluminación. Movimientos de cámara, qué interpretación quería que hicieran los actores. O sea, todo ya estaba construido cuando el guión acabé de escribir el guión. So, obviamente, la película que ven, que han visto esta mañana, es exactamente lo que yo tenía en la cabeza. O sea, tuve la suerte de poder hacer esto. Cuando se tiene una idea así, tan concreta de un guión, es casi imposible entregarlo a otra persona, porque es como una desposesión, si se pudiera decir, o la palabra, si existiese, ¿no? Pero, por ejemplo, con Las almas grises, novela mía, ¿no?, que adapto al cine, lo hace un amigo mío, que ha hecho un amigo de Evangelo, no me sentí en ningún momento desposeído, no, todo lo contrario, lo había escrito para él, sabía que lo iba a rodar otra persona, pero esta no, este guión no. Lo escribí realmente construyendo ya la película. Entonces no podía entregarlo a otro realizador que, claro está, iba a aportar su toque y sus ideas, como es normal. ¿Sí?
Es quería que me explicara una cosa. El hecho de matar al comisario y no mandarle al Orinoco cuando la película es suficientemente dramática, ¿por qué ha cargado tintas de quizá hubiera quedado como más lineal, vamos? O sea, que está excesivamente dramático, es decir, matar, que me explique por qué mata al comisario.
Parce que l'Orénoque, c'est comme une limite mathématique. C'est quelque chose dont on rêve et on ne l'atteint jamais. En fait, si vous regardez bien, le personnage du policier, il est très très proche du personnage de Juliette. Ces deux êtres qui ont souffert, elle a vraiment perdu son enfant, lui... Il le dit, il a une petite fille, mais elle est loin, il ne la voit jamais. C'est quelqu'un qui est seul dans la vie, qui a une grande sensibilité. Et les deux personnages s'entendent très bien parce que finalement, ils sont presque pareils. La grosse différence entre les deux, c'est que autour de Juliette se met en place tout un ensemble de relations humaines. Sa sœur, les petites filles, l'ami Michel, là, qui devient peut-être son amoureux. Tous ces êtres-là la ramènent vers la vie et lui montrent finalement combien les autres c'est important et combien on peut se reconstruire, combien on peut essayer de revivre après. Hein. Alors que autour du policier, il n'y a personne. La seule personne qui serait capable de faire quelque chose pour lui, c'est elle. Mais elle n'arrive pas à parler ou c'est encore trop tôt. Quand il y a la scène, il dit « ça y est, je vais partir ». On sent bien qu'elle, elle a envie de dire « Mais non, ne partez pas, restez. » Et puis lui, il attend qu'elle lui dise ça. Mais en fait, ils sont tous les deux dans leur silence et personne n'ose dire vraiment les choses. Quoi. Et du coup, elle ne dit rien et il va vers son destin. Donc le personnage du commissaire, c'est comme un double inversé du personnage de Juliette. Hein. C'est quelqu'un qui est seul, et tellement seul qu'il va vers la mort. Et puis l'autre chose, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est plus un peu sociologique, c'est que je ne sais pas en Espagne, mais en France, le taux de suicide dans la police est énorme. Il y a beaucoup de policiers qui se suicident. Et je voulais aussi indirectement, voilà, montrer la détresse de quelqu'un dans sa profession et qui va jusqu'au geste dramatique.
Voyons peut-être pour le final. En France, je ne sais pas si ocurre lo mismo aquí en España, pero en France, el suicidio. La tasa de suicidios en las fuerzas policiales, las fuerzas del orden, es altísima. O sea, es muy alto. Empezando por ahí. Entonces, ahora volviendo al principio. El Orinoco es como un límite matemático. No es una línea inalcanzable que uno sueña y que nunca llega, que nunca puede tener, ¿no? Entonces, también el policía es como un poco el doble inverso de Juliette. Son dos personajes que se encuentran, desde luego, los dos son están muy solos, muy perdidos. Los dos han perdido a un hijo, ella a raíz de la muerte, él, porque a raíz del divorcio la mujer vive lejos, ya no vive a su hija. La única diferencia realmente enorme que hay entre los dos personajes es que ella, a raíz de su soledad, su estar perdida, su intento de entrar en la vida es ayudado a través de todo lo que compone su ambiente, ¿no? Su hermana, incluso su cuñado, las dos niñas, el amigo Michel, que quizás se convierta en su amante. Todo eso le ayuda a encaminarse de nuevo hacia la vida. Mientras que él es todo lo contrario. Él está solo, totalmente solo. De hecho, cuando dice lo que come es tristísimo, ¿no? Entonces no hay nada que le empuje hacia la vida, solo puede ir hacia su destino. Cuando él le dice, bueno, por fin he tomado la decisión, me voy al Orinoco, ya es obvio que tiene ganas de decirle, no te vayas, o sea, no se vaya, no, que desee, igual hay una posibilidad, porque en realidad se llevan muy bien, son muy parecidos, pero es demasiado pronto, ya no lo puede decir, no tiene todavía ningún apoyo que le permita decir una cosa así, y entonces él solo puede seguir adelante, no hay forma de volver hacia atrás. Creo que he dicho todo, ¿sí?
Quería que me hablase del personaje del abuelo, que me ha encantado. Me encantaría que hiciera una película sobre ese personaje, porque no sé si en algún momento el guión estuvo más desarrollado, pero es como un mundo aparte dentro del mundo, con un montón de referencias distintas a las otras.
Et il y a un livre qui parle du grand-père, parce qu'il voulait surtout savoir si tu avais un peu plus de personnages grand-père en Chine, dans un premier temps. Parce que pour lui, c'est un personnage fantastique, qui n'avait pas de référence totalement différente de la famille.
Non, en fait, ce que vous voyez, le film, c'est quasiment le scénario. Il y a juste deux scènes vraiment très mineures que j'ai coupées. Mais le scénario final et le film sont quasiment à l'identique. Et le montage aussi. Le montage a été assez facile à faire parce que j'ai monté avec ma monteuse le scénario, quoi. Ensuite, après, c'était des dosages, évidemment, mais il n'y avait pas un gros problème de montage sur le film. Et le personnage du grand-père, il était donc comme ça à l'écriture. Et il témoignait d'une autre forme d'enfermement. Le thème de l'enfermement est décliné de différentes façons dans le film. Il y a l'enfermement dans le deuil, il y a l'enfermement réel dans une prison, il y a l'enfermement dans la douleur, il y a l'enfermement dans le secret, l'enfermement dans la maladie, dans la vieillesse. Et pour le personnage du grand-père, dans l'aphasie, c'est quelqu'un qui ne peut plus parler, donc qui est emprisonné quelque part. Et c'est pour ça aussi que c'est le premier personnage vers lequel Juliette se sent attirée, parce que comme il ne parle pas, il ne peut pas lui poser de questions, et il est aussi dans une sorte de prison. Vous avez vu que la pièce dans laquelle il vit, c'est comme une petite cellule agréable, mais c'est quand même une cellule, c'est petit, il y a un lit, il y a des livres, et curieusement, c'est quelqu'un qui pourrait souffrir de sa condition, mais on voit qu'il en a tiré une certaine sagesse, et c'est quelqu'un qui... Moi, je le disais souvent aux autres comédiens et à Jean-Claude Arnaud, le comédien qui faisait ce rôle, je lui disais, tu es un gros rocher, quoi, très stable comme ça, sur lequel les autres vont s'accrocher. C'est une sorte de cœur un peu puissant de la maison, quelque chose de bienveillant, de rassurant. Alors bon, pour terminer par une anecdote, c'était très difficile pour le comédien, parce que... Jean-Claude Arnaud, c'est un vieux comédien, un ancien de la Comédie française, donc qui est habitué aux beaux textes, etc. Et à chaque fois, il voulait dire quelque chose, quoi. Et ou alors, quand je dis non, il n'y a pas de texte, alors il voulait surjouer comme ça. Et je dis non, il faut faire sobre, donc il a été très malheureux sur le tournage.
Bueno, no, en realidad el guión, tal como lo han visto, o sea, la película que han visto ustedes esta mañana es exactamente el guión, excepto dos pequeñas escenas menores que corté. Incluso en el montaje no ha cambiado nada, porque yo cuando escribí el guión hablé con la montadora, o sea, hablamos, y luego, bueno, pues es lo típico durante el montaje, que estuve con ella en la sala de montaje, pero son cosas ya de ver, de dosificar, ¿no? Un poquito más aquí, un poquito más allá. O sea que no, en eso, el personaje siempre fue pensado así, porque es otro encierro. Encierro en el sentido de prisión, ¿no? Por ejemplo, está la prisión real, física, que está acá. Está la prisión del dolor, también, ¿no? Del duelo, de haber perdido a un... La prisión de la fascia, para el abuelo. Él ha tenido, obviamente, una hemorragia cerebral y no puede hablar, ¿no? Ya ha perdido el habla, ¿no? Eso está acá. Incluso su habitación donde él duerme, la biblioteca, bueno, está bien, o sea, no está mal, pero es un sitio pequeño. Ahí duerme, ahí vive, nunca sale de ahí, excepto para desayunar y para comer. Está encerrado también, o sea, digamos que la película muestra diferentes encierros, por llamarlo así. Y ahora bien, como he dicho, o sea, me interesaba eso porque también el abuelo en la película representa una especie de roca. Es como algo... como el corazón de la casa, pero un corazón muy fuerte, muy potente, ¿no? Donde el resto de los habitantes de la casa pueden agarrarse. Si hubiera una ola muy grande, él les sujetaría. Está allí y es un hombre, un personaje que a pesar de haber perdido el habla, ha conseguido sacar una cierta sabiduría de esta pérdida. O sea, le ha aportado otra cosa. Y luego, para terminar, una cosa anecdótica, ¿no? El actor que se llama...
Jean-Claude Arnaud.
Jean-Claude Arnaud, ¿no? Es un actor bastante conocido en Francia, que trabajó mucho en la comedia francesa, en el teatro, por lo tanto, muy acostumbrado a los papeles, pues, de Molière, o sea,
grandes discursos. Y entonces yo le dije, no, pero es que verás, el papel es duro. O sea, no, nunca dices nada. Entonces lo voy a hacer con gestos, no voy a sobreactuar. No, 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 quiero que estés muy tranquilo, que no hagas nada. Y para él fue muy difícil, porque estaba acostumbrado justamente a comunicar a través de... ¿Sabes? No pudo hacer nada de eso.
Oui, il me disait oui, mais enfin, je suis un débile, quoi. Je suis un débile complet.
Sí, claro, el actor, claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que haga de tarado?
Alors, je dis, mais non. Et puis, à un moment, il était. Enfin, il y a parfois quand même des petites tensions sur les tournages, donc il m'avait un peu énervé quand même. Et c'est pour ça qu'on le distingue peut-être pas, on l'a peut-être pas vu, mais à un moment, il a un post-it qui est collé sur lui et c'est marqué puni.
Bueno, en cualquier rodaje siempre hay pequeñas tensiones, momentos peores que otros, ¿no? Y hubo un día en que me sacó de quicio realmente. No, no sé si lo habrán notado, claro, es muy difícil verlo, pero hay un momento que en una escena estoy en pose de aquí, ¿no? Con el castigado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí?
Creo que tantísimos temas. Quería saber si ella mata al niño por egoísmo o porque lo quiere. Si ella hubiera sido católica, lo hubiera matado. Luego, ¿por qué no abraza a la madre? Porque el encuentro con el Alzheimer está muy bien reflejado. Yo diría mucho que el niño así. No sé, tocas tantos temas, pero me llama la atención. Yo creo que si este personaje es católico, no hubiera matado. Creo. ¿Ya confío?
Pas tout à fait.
Alors, ¿pourquoi
est-ce
que
tu
l'enfant?
¿Por egoísmo
o
por
amor?
¿Por
qué
es
que
tu l'enfant? ¿Y por qué así? Ne l'accepte pas de sa mère, n'accepte pas sa mère, quand on a chanté quand elle parle, etc. Et on sait que la scène est la dernière, parfaite. Moi j'ai vu ces scènes-là et je sais que c'est exactement
ça. Alors. Moi, ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'est que le spectateur sorte un petit peu de la salle en se disant mais qu'est-ce que j'aurais fait moi si quelque chose comme ça m'arrive, si mon enfant, si je découvre que mon enfant ou un être très cher est atteint d'une maladie incurable, que cette maladie va dégénérer, va lui causer des souffrances terribles. J'ai choisi une maladie précise qui est extrêmement malheureusement crédible pour le film. C'est une forme rare de leucodystrophie qui en quelques mois fait passer d'un enfant de 6-7 ans en pleine santé à un petit être qui souffre et la fin est irrémédiable. Et je crois qu'il n'y a pas pire situation pour une mère ou pour un père que d'être confronté comme ça à la souffrance et à la mort de son enfant. Peut-être que pour certains, la religion peut être d'un grand secours. En l'occurrence, dans ce film-là, le thème de la religion n'est pas traité. C'est une mère qui est face à la douleur et qui fait finalement ce qui est peut-être le plus grand geste d'amour qui puisse être. Comme elle le dit à la fin, elle a donné la vie et elle reprend la vie. Mais en même temps, elle a conscience que ce geste est effroyable, donc elle se condamne. Elle n'attend même pas la justice des hommes ou la justice de Dieu. Elle se condamne elle-même et cette condamnation, c'est de ne rien dire et donc d'être emprisonnée, de ne pas expliquer et d'être emprisonnée comme ça pendant longtemps. Et puis, plus brièvement, par rapport à la mère, il y a eu cet autre meurtre, quelque part. Les parents de Juliette l'ont tué. C'est pas un meurtre qui est puni par la justice, mais en refusant de la voir, en la chassant de leur vie, ils l'ont quand même tué symboliquement. Et lorsqu'elle revoit sa mère 15 ans après, il y a cette espèce de sentiment paradoxal. On voit qu'elle est distante. Et à un moment, quand même, elle la prend un peu dans ses bras, et puis c'est la mère qui la repousse. Donc, il y a une sorte de réconciliation qui ne se fait pas. Comme parfois dans la vie, ça existe, malheureusement. On n'arrive pas toujours à se réconcilier avec les gens qu'on aime.
Bueno, lo que a mí me interesaba al hacer esta película era también que el espectador público saliera preguntándose qué habría hecho yo en esta situación, ¿no? Escogí especialmente una enfermedad que existe, se llama leucodistrofia. Es un caso, no, es muy, o sea, muy pocos casos, pero ocurre en de 6 a 7 años, que en cuestión de 6 meses totalmente, o sea, pasa desde un niño bastante sano, bien, a dolores atroces y un fin seguro. No hay curación, etcétera, etcétera.
es una enfermedad atroz. Escogí esto. Para ella, para Juliet, la cuestión de la religión no se plantea. O sea, en ningún momento, no importa si sea católica, protestante o atea, no entra en juego realmente. Ella sí dice, bueno, yo he dado la vida, de hecho lo dice, he dado la vida, la he quitado. Al mismo tiempo, se puede hacer algo peor, lo dice claramente en la película, ¿no? Y se condena a sí misma. Se condena irremediablemente por su silencio. No quieren la justicia de Dios ni la justicia de los hombres. No hablan de justicia, no se defienden. No pide ayuda. Se acabó. He hecho esto, me voy 15 años. Eso por una parte, del personaje de Juliette. En cuanto a la madre, los padres de Juliette también, cuando ella, después de cometer este terrible crimen, la condena. Y la mata. Porque dicen, hasta aquí, se acabó. Tú ya no existes. No eres nuestra hija. No vamos a verte. No te hablamos. No te escribimos. Has terminado. Entonces son 15 años de silencio por parte de su familia. Cuando se encuentra con su madre, al final, la madre con su Juliette, ay, niña, has vuelto del colegio, ¿no? Al final la abraza un poco. Pero curiosamente es la madre que, como tiene Alzheimer, ¿no?, la vuelve a empujar, la vuelve a alejar de sí misma, ¿no? Y, un momento, he tenido un...
Bueno,
la reconciliación. Bueno, sí, y es verdad, pero ocurre en la vida misma, ¿no? Hay reconciliaciones que empiezan, no acaban, o sea, hay un paso hacia la reconciliación, pero nunca tiene lugar, nunca hay un final feliz. No siempre hay finales felices. Eso es lo que se había olvidado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Usted ha confesado que el cine es superior a la literatura. ¿Puede ser ese también el motivo por el que, por ejemplo, Michael Ferbé, con Polos, que por los nombres, también habían pasado al cine? ¿O creo que se
Ben, moi, je peux pas répondre à la place des autres, donc je sais pas pourquoi les auteurs que vous citez, Paul Auster ou Michel Houellebecq, et d'autres en France, par exemple, il y a eu dernièrement Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur aussi, qui a fait un film l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu Bernard Werber, qui a fait un film aussi, enfin bon, et jadis, il y a eu des exemples aussi quand même très prestigieux, hein, Jean Giono a fait des films, Marcel Pagnol, enfin bon, il y a pas mal de... Il y a quand même souvent eu des liens comme ça. Je ne sais pas pourquoi les autres font ça. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est... vous voyez, je fais de la photographie aussi. Je fais de la peinture. Je joue de la guitare électrique. Enfin, toutes les formes d'art m'intéressent. Alors, il y en a certaines où je réussis un petit peu mieux à faire des choses. Puis il y en a d'autres comme la guitare électrique où il faut que je garde ça pour moi tout seul parce que je joue tellement mal que je ne veux pas faire ça subir aux autres. Mais j'ai besoin d'explorer différents champs de la création. J'ai besoin de changer d'univers créatif quand je veux exprimer certaines choses. Alors il y a des idées qui me viennent où tout de suite je me dis ça c'est un roman, et il y en a d'autres pour lesquelles je me dis c'est plutôt un film ou c'est plutôt un tableau. Et à ce moment-là je choisis... Le meilleur moyen d'expression.
Bueno, no puedo contestar por los demás, ¿no? Está claro que Rosa Foloster, Michel Houellebecq, vale. También hay más, Francia ha mencionado que dos casos que ha sido muy conocida aquí, que también han pasado al cine, luego anteriormente Marcel Pagnol, desde luego, Giorno también, o sea, bueno. Está claro, puede ser por eso, ¿no?, que ofrezca, como ofrece más, pero también dice, es que yo toco muchas otras cosas, también pinto, ¿no?, toco la guitarra eléctrica, eso depende, ¿no?, toco un poco todo lo que es arte, ¿no?, porque hay, a veces, bueno, está claro que hay ciertas cosas que están muy bien, que yo no las hago demasiado mal, medianamente, hay cosas como la guitarra eléctrica que es mucho mejor mi figura en nadie más, en mí, eso está en mi casa y no el público, algo francamente mal, pero bueno. Y también, pues, hay veces que tengo una idea y digo, esta idea es perfecta para un libro, o magnífica novela, o va a hacer un cuadro que me va a gustar,
pero cada cosa puede, va dirigida a un sitio u otro, ¿no? Entonces, realmente no sé cómo el arte, es decir, el savoir aussi se tiene en el proceso.
Ce qui se passe, avec ce film a été vraiment un gros succès en France et il sort dans beaucoup de pays, donc finalement le travail que j'avais à faire dessus, qui aurait dû s'arrêter à la sortie en France, fait que j'ai encore au moins pendant une année de voyage dans le monde ou de présentation du film, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. C'est très agréable, mais j'ai vraiment pas la tête tranquille pour me mettre sur autre chose. Mais c'est vrai que je pense que j'ai deux trois sujets de films en tête, et je sais pas lequel va être celui qui va être le prochain film. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire un prochain film, ça c'est déjà merveilleux, mais en même temps moi je suis quelqu'un qui prend mon temps. Enfin, je vais pas faire un film parce qu'on me donne les moyens de faire un film. Je ferai un film si vraiment je ressens la nécessité absolue d'en faire un. Il y a déjà beaucoup de films qui sortent, comme il y a beaucoup de romans. C'est pas la peine de faire un film ou un roman comme ça, à la légère. Et en plus, j'ai vu, si vous voulez, combien c'était fatigant de faire un film. C'est très fatigant. C'est beaucoup moins fatigant de faire un roman. Un roman, c'est tranquille, ça va. Mais un film, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il faut être vraiment complètement habité par un sujet, avoir le désir de sujet pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc je préfère prendre mon temps et bien réfléchir.
Bueno, esta película, en principio yo misma estaba haciendo el lanzamiento en Francia y ahí se acababa mi trabajo, ¿no? Pero como fue un éxito muy grande en Francia, también ha sido comprada por muchísimos países, ¿no? E incluso lo ha hecho, pero voy a mencionar dos, Corea y Estados Unidos, por ejemplo. Y solo funciona de momento en Holanda, en Francia y ahora en España. O sea, que me queda por lo menos alrededor de casi un año todavía de promoción por el mundo entero. Es muy agradable, está muy bien, veo países, viajo, es fantástico. Pero tampoco me da mucho tiempo para sentarme y escribir un guión o algo así. Eso por una parte. Estoy encantado, por cierto, de que la película tenga éxito, eso también, ¿no? Pero, además, sí, tengo dos o tres proyectos en mente, como decía, pero realmente no sé cuál de ellos va a ser el que voy a escoger, ¿no? Y luego hay otra cosa. He descubierto que hacer cine cansa mucho. O sea, rodar una película es mucho más duro que escribir una novela. Uno escribe la novela en su casa, tranquilamente, con su ritmo. Pero el cine no. El cine es cada día, muy temprano, hace falta una energía tremenda durante el rodaje. Y entonces, bueno, tomando todo eso en cuenta, voy a esperar un poquito.
Je veux juste rajouter quelque chose aussi qui est quand même très important pour moi, même si ça paraît des questions de budget. J'ai pas envie de me lancer dans un projet cinéma très coûteux, avec un gros budget. J'aimerais bien que le prochain film soit encore comme celui-là, dans un budget modeste. C'est un film qui n'a pas coûté très cher, celui-là, hein. Donc ça donne quand même aussi une plus grande liberté de création. Il n'y a pas la pression en se disant oui, il faut que le film ait du succès ou je sais pas quoi. Donc on peut travailler dans des conditions plus tranquilles, et j'aimerais bien que le prochain film soit un projet aussi de cet ordre là qu'on puisse faire avec pas énormément de jours de tournage, et puis avec une équipe correcte mais pas non plus énorme, et surtout avec des producteurs qui ne soient pas là angoissés par tout l'argent que ça coûte. Ça coûte déjà tellement cher, le cinéma. Je serais, moi, très angoissé d'être à la tête d'un film à un trop gros budget. Si
tenez autre chose, je ne veux pas que la prochaine película soit un super presupuesto. O sea, prefiero, sinceramente, mantener un presupuesto pequeño, como esta. El cine cuesta por sí mucho dinero, aunque sea un presupuesto pequeño, siempre es muchísimo dinero. Entonces, no quiero seguir, pues eso, con actores buenos. Porque son grandes actores que tienen fortunas, quiero un equipo decente, pero no quiero un super equipo con muchísima gente, quiero pocos limitados días de rodaje, y sobre todo no quiero que unos productores estén sobre mí, pero detrás de mí, diciendo, bueno, pues que hemos invertido tanto, y sentir la presión de que la película debe tener éxito, pase lo que pase, porque se ha gastado tanto dinero en esto. Entonces también es buscar un proyecto que se adapte a estas condiciones.
Sí. El personaje de Miguel es el que mejor comprende y acepta las palabras y los silencios de Juliet, ¿no? Y es el que, coincidiendo con su biografía, ha estado dando clases en una cárcel. Incluso físicamente se parece un poquito a usted. ¿Hay algo más?
Tenemos la misma caballera.
Oui, c'est vrai que je disais à Laurent Grévy,
le comédien qui interprète le personnage de Michel, que
quelque part il était un tout petit peu mon double dans le film. Ça s'arrête.
Ça s'arrête à ce que vous dites, c'est-à-dire la même
expérience de la prison. Moi j'ai heureusement pas l'arrière-plan douloureux, on apprend qu'il a perdu sa femme, etc. Mais c'est vrai que parfois quand j'étais derrière la caméra, ça m'amusait beaucoup de le voir devant et de me voir un petit peu comme ça évoluer dans le film, quoi. Donc il y a cet élément un tout petit peu autobiographique, mais en fait il y a beaucoup plus d'éléments autobiographiques qui sont dans les lieux, parce que le film je l'ai tourné à Nancy, la ville où j'habite, la ville que je connais bien, et tous les lieux que j'ai choisis, que vous voyez, ils sont tous reliés à ma vie d'une façon ou d'une autre,
ce qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais dans tel café, j'ai fait telle chose. Dans telle piscine, j'ai rencontré telle personne. Le bureau que vous voyez à l'université, c'est mon bureau à l'université. Ce qui montre la grandeur des moyens de l'université française, avec un ordinateur qui a au moins 37 ans, etc., etc. Donc il y avait des petits clins d'œil comme ça.
Non, Si, effectivement, es algo biográfico. No do mucho, porque el personaje igual que yo ya da clases en la cárcel durante 11 años. Por suerte yo no tengo la parte dolorosa del personaje que aprendemos que ha perdido a su mujer en un accidente terrible, que no es mi caso, ni mucho menos. Y la verdad es que me hacía a veces bastante gracia desde detrás de la cámara ver a Laurent Grévy, el actor que interpreta a Michel, hacer de mí, ¿no? O sea, era muy gracioso, ¿no? Aparte la abundante cabellera, pero bueno. Pero lo que sí es más biográfico, autobiográfico en la película, son los lugares, o sea, la ciudad. Está rodada en Nancy, es el norte de Francia, capital de la Lorena, donde yo vivo, con mi familia, donde enseño, de hecho. Y entonces, bueno, pues está el café, donde ahí me tomé algo un día con tal y tal. No está la piscina, donde un día conocí a no sé quién. El despacho de la universidad. Es mi despacho real, o sea, mi oficina, el despacho que yo tengo en la universidad, que demuestra ahí, se ve claramente la grandiosidad de los medios que tiene el Estado francés. Un ordenador de unos 35 años, o sea, eso puede decir que sí, es bastante autobiográfico, ¿no? Toda esta parte. ¿Sí? Ahora bien.
Ha hecho una referencia antes a la religión. Hay dos referencias religiosas muy nítidas en la puesta en escena. Una es del abuelo con un icono oriental de Cristo y otra al final con un ángel en un encuadre que a mí me parece de magistral, acompañando a los dos personajes y sin mostrar el contraplano, que supongo que habrá sido una decisión muy de director. No hay ninguna referencia que yo haya visto de la Virgen, que hubiese sido quizá lo más directo en un caso de duelo por la maternidad o de dolor por la maternidad. No sé si todo esto ha sido premeditado o me lo estoy montando yo, pero me han parecido referencias por lo menos dramáticamente interesantes, ¿no?, en cada personaje.
Est-ce que,
en plus, c'était très... Tu as recherché ces deux références.
Oui, alors c'était... Si vous voulez, moi je m'interroge toujours sur Dieu. Tous les livres que j'ai faits, il y a quelque part cette interrogation aussi sur l'existence ou la non-existence ou la fin de l'existence de Dieu. Je suis quelqu'un, comme presque tous les gens de ma génération, qui a été élevé dans la religion catholique. J'étais enfant de cœur, j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près, et ensuite j'ai fait ma crise mystique, mais à l'envers, c'est-à-dire que je me suis éloigné
Mais c'est Nietzsche qui disait « Je suis un athée que le sacré fascine », et moi je suis toujours dans cette fascination du sacré et de du questionnement sur l'existence de Dieu. Et dans le film, il y a une présence, je dirais, athée de la religion. C'est-à-dire qu'il y a des symboles comme effectivement ce visage du Christ dans ce petit tableau dans la chambre du grand-père. Et puis il y a surtout cet ange qui est comme un ange gardien, en fait, hein, qui peut être vu à la fois comme une sorte de symbole de l'enfant mort qui bénit en quelque sorte l'union prochaine de sa mère et de Michel, ou alors comme un symbole vraiment religieux. Mais je vous avouerai qu'au départ, j'ai choisi... Il y a peu de plans esthétiques dans le film. J'ai pas recherché la beauté des plans, sauf à quelques moments où cette beauté du plan s'accordait à une sorte de beauté intérieure du personnage, de paix intérieure. Et quand j'ai revisité ce musée que je connais bien, quand j'ai regardé cette contre-plongée, je trouvais que ça faisait un très joli cadre avec l'escalier qui dessine cette courbe, la blancheur, l'ange. Et il y avait une sorte de beauté irradiante qui collait bien avec ce moment du film où elle commence vraiment à aller mieux. Donc en plus de la connotation religieuse, il y avait aussi cet aspect esthétique.
Bueno, sí, vamos a ver, yo a mi edad está claro, como la mayoría de la gente en Francia, me educaron en la religión católica. No fui monaguillo hasta los 15 años y tuve una crisis mística. Lo que pasa es que tuve una crisis mística, me alejé de la religión. Pero ya lo dijo Nietzsche, ¿no? Soy un ateo al que fascina lo sagrado. Entonces, bueno, me pasa un poco eso, ¿eh? En cierto modo. Pues siempre me planteo la cuestión de Dios, de la existencia, de la no existencia de Dios, en mis guiones, en mis novelas. O sea, la cuestión, digamos, de la religión sí está presente. En la película, efectivamente está el pequeño cuadro oriental, o sea, el aspecto oriental de la librería, donde, la biblioteca, donde, librería donde vive el abuelo, y está el ángel. El ángel que puede ser representar al niño, realmente, al niño muerto, que bendice desde arriba la futura unión de su madre con Michel, o también puede ser el ángel de la muerte, un ángel de la muerte, ¿no? Es verdad, cuando volví al museo, ¿no?, antes de rodar, el museo que conozco bien es el Museo Municipal, ¿no?, de Nancy, y vi esta escalera, ¿no?, la pared blanca, el ángel, ¿ves? Esto es fantástico, esto es vamos, una magnífica puesta en escena. Y yo dije,
le film n'est pas esthétique, je recherchais
voilà, pas. Pero algo muy importante que se me olvidó decir, en ningún momento he buscado hacer planos estéticos en la película. O sea, no he buscado la esteticidad del plano, ¿no? Excepto en un par de momentos, o tres, cuando justamente la esteticidad del plano, se puede decir así, encaja, va perfectamente con la paz del personaje, con la paz interior, ¿no? Porque realmente en esta escena del ángel final, o sea, es cuando se puede decir que por fin Julia ha encontrado la paz, ya está contigo.